En toute intimité, présenté par Thierry Bensamoun. En toute intimité.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers auditeurs de Radio Ravive. Heureux de vous retrouver cette semaine avec une nouvelle invitée. Une invitée que nous recevons ici, donc dans les studios d'Auravive, situés non loin de sa communauté, en la personne de la présidente du CRIF, Fabienne Bendayon. Bonjour.
Bonjour.
Alors Fabienne, on vous reçoit bien sûr, vous êtes présidente du CRIF, vous avez également une histoire associative, une histoire personnelle, de vie, de citoyenne marseillaise, engagée. Voilà l'objet principal de cette émission en toute intimité. Et bien sûr, nous allons parler de votre engagement, du programme passé et à venir du CRIF, de l'actualité également dans notre cité et plus généralement sur le plan national. Enfin, tout un programme. Et puis après, c'est laissé à votre convenance sur les thèmes que vous souhaiterez aborder. Donc, première question, Fabienne Bendayon. Comment arrive-t-on présidente du CRIF ?
Alors d'abord, je voulais vous remercier de votre invitation et vous dire que je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. Comment on en arrive présidente du CRIF ? C'est l'aboutissement d'un engagement communautaire qui date déjà depuis quelques années. Donc moi, je me présente, je suis donc mariée, j'ai 3 enfants, je suis avocate au barreau de Marseille depuis plus de 20 ans. Et dans le cadre de mon engagement communautaire, celui-ci a débuté, précisément ma qualité d'avocate, par des consultations juridiques gratuites que j'ai prodiguées au consistoire. Et puis je me suis par la suite engagée en 2016 au sein du CRIF Marseille-Provence. Je suis rentrée, donc j'ai été élue au comité directeur. J'ai occupé les fonctions de trésorière générale. Et en ma qualité d'avocate toujours, eh bien, j'ai occupé la présidence de la commission droit et justice, qui est une commission qui a vocation, alors tout d'abord, aider bien sûr les associations qui sont fédérées au sein de notre institution et le cas échéant, prodiguer des consultations juridiques pour ceux qui en ont le besoin. Mais l'aspect le plus important de cette commission, c'est bien évidemment faire en sorte que les actes antisémites qui seraient commis dans Marseille et sa région ne reste pas impuni. Ça signifie effectuer des signalements auprès du procureur de la République et se constituer partie civile à chaque fois que nécessaire auprès des tribunaux. Cet engagement communautaire, il s'est conjugué également avec d'autres engagements, puisque j'ai aussi, par souci pour les plus démunis de notre communauté, accepté de m'investir au sein du FSJU, du Fonds social. J'ai occupé le poste au sein du conseil d'administration pendant quelques années. Et puis en 2022, il y a eu de nouvelles élections qui induisaient aussi d'élire un nouveau président au sein de cette institution. Et j'ai été encouragée par les gens qui m'entouraient, les gens du comité directeur, mais également les personnes de mon entourage qui m'ont soutenu dans cette démarche. J'ai été seule candidate à l'élection en octobre 2022. J'ai eu le bonheur d'avoir été élue à l'unanimité par les associations qui sont fédérées au sein du CRIF. Et me voilà donc depuis octobre 2022, présidente du CRIF Marseille-Provence.
Alors Fabienne Bendayon, on le rappelle à nos auditeurs qui viendraient de nous rejoindre. Donc vous êtes l'actuelle présidente du CRIF. Avant cela, vous aviez été également vice-présidente de l'école Ganami.
Exact, oui.
Vous avez eu un parcours personnel aussi à travers des enfants.
Tout à fait.
Pour vous, l'école juive, ça signifie quoi ? Quand on est... Vous, aujourd'hui, président du CRIF, est-ce que c'est un refuge ou est-ce que c'est un objectif ? Est-ce qu'il y a eu une évolution dans cette école que vous avez remarquée, dans l'école juive en général, je parle ?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, la priorité des priorités, et d'ailleurs les événements récents en témoignent, c'est l'éducation. À tout point de vue, c'est-à-dire que je pars du principe que vraiment dans notre société, l'éducation c'est vraiment un élément prioritaire majeur. L'école juive en particulier, c'est évidemment le travail de faire en sorte que nos enfants puissent évoluer avec un enseignement qui cristallise finalement notre histoire.
Mais si je vous pose cette question, c'est parce que l'on a le sentiment depuis quelques années qu'on ne met plus des enfants à l'école juive vraiment par conviction, mais ce mot de refuge, c'est-à-dire pour les protéger de l'antisémitisme ou des fréquentations, des fois qui peuvent interroger sur l'école laïque, à savoir selon les quartiers de Marseille ou d'ailleurs. Et c'est en ce sens que je parle de refuge. Est-ce que vous l'avez, est-ce que vous en avez été le témoin? Et à votre avis, est-ce que il y a là quelque chose de avec on doit faire avec, ou bien on arrive à sortir de ce malheureusement de ce refuge?
Alors vous avez raison, effectivement, et évidemment, il faut, je crois, éviter de se cacher le soleil avec la main. Il est évident que pour un certain nombre de nos compatriotes, l'école juive constitue un refus parce qu'il y a eu des expériences malheureuses au sein de l'école publique et que parfois, certains parents ont pris la décision de confier leur enfant dans une école juive parce qu'ils ont constaté que malheureusement, l'épanouissement des enfants au sein de l'école publique s'avérait difficile. Difficile parce que, vous avez raison de le souligner, on est parfois confronté même au sein de l'école à des actes antisémites qui touchent malheureusement les plus jeunes qui, bien évidemment, ne sont pas épargnés par cette problématique. Et ça me fait penser un petit peu au parallèle sur le choix de faire son alia, en fait. Et c'est ça qui m'interpelle et qui m'interroge, c'est que je suis intimement convaincue que finalement, les choix qui dictent nos décisions en tant que parents, en tant que citoyens, en tant qu'adultes, il faut que ce soit vraiment des choix de conviction. Et malheureusement, il se trouve que certaines personnes prennent, pour faire le parallèle avec l'Alia, la décision de quitter la France et de partir s'installer en Israël parce qu'ils ont le sentiment aujourd'hui de ne plus être en sécurité en France. Ils ont le sentiment que cette montée de l'antisémitisme est de nature à interdire un épanouissement personnel pour eux, pour leurs enfants. Et je dois vous dire que je déplore bien évidemment que ce choix puisse être conditionné par une crainte, par une menace, ou encore parce qu'on a le sentiment d'insécurité ou une montée d'antisémitisme sur laquelle on a du mal à agir. Donc, pour revenir sur la question relative à l'école juive, je serais heureuse que demain on puisse affirmer que tous ceux qui ont pris la décision de placer leurs enfants dans l'école juive l'ont fait uniquement par conviction. Mais je dois effectivement reconnaître que malheureusement, ce n'est pas le cas pour tous.
Alors Fabienne Banayan, je le rappelle à nos auditeurs, vous êtes présidente du CRIF Marseille-Provence. Le CRIF a une actualité, néanmoins cette actualité est toujours intimement liée avec... vous l'entendez depuis le début, l'antisémitisme, les actions en justice, la lutte contre l'antisémitisme, néanmoins il n'y a pas que cela. Et j'aimerais d'abord aborder avec vous le rapport avec les différents mouvements politiques, les différents partis politiques, puisque le CRIF c'est également l'intermédiaire de la communauté officielle avec les pouvoirs publics. Alors quelle est votre approche le dialogue avec tous les partis politiques? Est-ce que vous vous interdisez certaines approches ou bien vous restez ouverte au dialogue avec toute la frange politique de l'échiquier de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche?
C'est une question sur laquelle je ne vous cache pas. Nous en avons parlé justement il y a quelques jours de ça lors de notre dernier comité directeur. Alors il faut savoir que d'un point de vue institutionnel, le CRIF Marseille-Provence, mais en réalité c'est une posture institutionnelle du CRIF national et de tous les CRIF régionaux, c'est toujours interdit de dialoguer avec les partis politiques extrémistes, considérant effectivement que compte tenu de certaines postures, il n'y avait pas lieu à dialoguer avec ces partis extrémistes, notamment pour ne pas leur donner une certaine légitimité, une certaine caution en développant un dialogue avec ces partis extrémistes. C'est une posture qui date depuis la création du CRIF, ce n'est pas nouveau. Maintenant, il est certain qu'il faut, à mon sens, qu'il y ait une réflexion qui soit menée sur cette posture. Je m'explique. En réalité, on constate que l'échiquier politique a, ces dernières années, totalement été bouleversé. Et à l'époque où, par exemple, le Front National, devenu aujourd'hui le Rassemblement National, faisait quelques pourcentages de voix, il était facile d'adopter une posture qui consistait à dire on n'échange pas, on dialogue pas, et de renoncer effectivement à les recevoir ou à échanger avec eux.
Donc vous êtes en train de nous dire qu'il y a une évolution sur justement cette approche, et puis alors, peut-être ce qui serait dû aussi à quelque chose qu'on peut remarquer, à savoir des députés du Front National qui sont les chantres de la défense de l'État d'Israël. Lorsque ce dernier est attaqué, on voit paradoxalement les seuls qui viennent défendre ouvertement, je pense au député Odoul, oui, qui s'est fait remarquer juste avant l'été, où on a véritablement un véritable engagement de défense de l'État d'Israël et de ses valeurs.
Absolument. Alors, je ne dis pas que nous avons la nécessité, et qu'en tout cas, ça a été mis
en... C'est pas qu'en termes de voix, quoi. C'est ça que
Non, mais je rejoins complètement votre analyse. Il est évident qu'aujourd'hui, notamment vis-à-vis de l'État d'Israël en particulier, aujourd'hui, les partis politiques d'extrême droite, eh bien, font la démonstration d'un soutien affiché à l'État d'Israël. Pour autant, je crois qu'il faut rester prudent et qu'il ne faut pas non plus oublier. Je pense notamment au programme de Marine Le Pen lors des dernières élections nationales. Il ne faut pas oublier que derrière cette apparence de soutien conditionnel à l'État d'Israël, ce qui m'importe moi aujourd'hui en tant qu'institution communautaire française, c'est avant toute chose de m'assurer du bien-être de nos compatriotes français juifs et de la possibilité, bien sûr, d'exercer leur judaïsme en France. Et le programme de Marine Le Pen avait, qu'on le veuille ou pas, eh bien, un certain nombre d'éléments qui, malheureusement, étaient de nature à nous inquiéter profondément sur la possibilité de poursuivre notre judaïsme en France.
On se souvient très bien, entre les deux tours des dernières élections présidentielles, l'interdiction affichée de l'abattage rituel si elle était élue.
Absolument, c'est une des illustrations, c'est-à-dire c'est de nature à compromettre eh bien, la possibilité pour nos compatriotes de pouvoir manger cachère, parce que la problématique de l'abattage rituel, mais aussi dans le programme, l'interdiction d'importer sur le sol français, eh bien, toutes les viandes qui auraient été abattues dans le non-respect du bien-être animal. Donc une problématique évidente sur... Mais ça, c'est effectivement une des illustrations. Mais il y a d'autres éléments aussi qui peuvent nous interpeller aussi. C'est par exemple une des mesures qui était envisagée d'interdire à l'école l'enseignement des langues étrangères. Comment dans nos écoles juives, du coup, on peut envisager de poursuivre l'enseignement de l'hébreu?
Là aussi, vous avez dit tout à l'heure, on ne va pas cacher le soleil avec sa main. On voit bien que toutes ces mesures sont quelque part le reflet de l'interdiction qu'on veut de l'abattage rituel, que ces mouvements veulent de l'abattage rituel, non pas dans le judaïsme, mais dans l'islam. Ils veulent interdire également donc le port de signes religieux autres que...
Alors il y a une alors la kippa, non. C'est en 2017, c'était effectivement le cas. En 2022, la kippa n'était plus concernée par ce problème.
Alors pourquoi on y arrive ?
Alors on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Je crois qu'il y a encore un petit peu de chemin. Et encore une fois, moi, ce qui m'importe, si vous voulez, c'est pas nécessairement de savoir qui est visé et à dessein de quoi. Ce qui m'importe, c'est que encore une fois, les Français juifs puissent maintenir leur niveau en fait de judaïsme sans qu'il y ait d'obstacles qui puissent être intimés par des mesures et donc pour ce qui est en tout cas de l'extrême droite et du Rassemblement National, vous avez raison de souligner qu'il y a des postures qui sont remarquablement en faveur de l'État d'Israël. C'est important parce qu'on va aborder bien sûr la question de l'extrême gauche et de LFI qui là pour juste le coup me cause particulièrement souci. C'est important, mais je crois qu'il faut quand même rappeler que pour autant il y a quand même en ce qui concerne l'extrême droite toujours des groupuscules d'extrême droite qui sont actifs, qui sont bien présents sur le territoire national, certains d'ailleurs ont fait l'objet d'interdictions par le ministre de l'Intérieur. Je pense vraiment qu'il y a une vigilance à conserver relativement à ce parti politique, même si, encore une fois, moi je suis de ceux qui espèrent pouvoir faire la part des choses entre ce qui évolue favorablement ce qui est démontré dans cette évolution et les retenues et les nuances que nous devons conserver face à ce parti historiquement antisémite. Mais qui semble faire une progression.
Peut-être en train de progresser.
Qui semble faire une progression.
Alors, Fabienne Benayan, vous avez fait la transition vous-même avec cette fois-ci l'extrême gauche.
Oui.
Avec LFI. Je n'ai même pas envie de donner le nom de son dirigeant, puisqu'il n'est même pas député. Donc, mais on le connaît tous. Donc, alors, cette partie d'extrême gauche, comment on l'appelle ?
Oui.
Quelle est votre position vis-à-vis, non pas de ce parti, mais justement de dialoguer avec eux, peut-être pour les faire changer d'avis, qui sait ?
Alors, la question du dialogue avec ce parti politique, comme je vous l'ai dit, c'est une question qui a été posée, mais la question elle a été posée pas que pour LFI et les partis d'extrême gauche, elle a été posée de savoir si nous devions modifier nos postures institutionnelles par rapport au dialogue avec les partis extrémistes. S'agissant de LFI, je pense que ce dialogue malheureusement est manifestement voué à l'échec parce qu'on a des postures qui aujourd'hui sont des postures clairement antisionistes mais qui frôlent l'antisémitisme parfois. Et,
oui, au travers de l'anticapitalisme. Et où on a.
Il y a ça, et puis après, si vous voulez, il y a aussi y a quelque chose de très factuel qu'il faut garder à l'esprit, c'est que. Enfin, je n'ai pas entendu une seule condamnation relativement à des actes terroristes qui auraient été commis, qui toucheraient effectivement l'État d'Israël, qui toucheraient la communauté juive. Alors, ils sont les premiers à s'indigner, à manifester, à s'agiter pour tout ce qui concerne effectivement une frange de la communauté, mais pas malheureusement la communauté juive. Donc, c'est quelque chose qui interpelle, qui pose souci. Et moi, ce qui m'inquiète particulièrement, ce sont les postures clairement antisionistes. Alors, la défense de la cause palestinienne, moi, c'est quelque chose que je peux parfaitement entendre. C'est-à-dire que je respecte parfaitement que certains citoyens, que certains responsables, que certains élus, aient à cœur la défense de la cause palestinienne. Moi, c'est quelque chose que je respecte parfaitement. En revanche, ce que je ne peux pas accepter, c'est quand certains s'entêtent absolument à vouloir faire la démonstration qu'Israël sera un état d'apartheid. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter, que je ne peux pas cautionner. C'est quelque chose que nous combattons au quotidien parce que statutairement, vous évoquez les différentes actions qui sont menées par le CRIF. Statutairement, c'est bien sûr la lutte contre l'antisémitisme, le devoir de mémoire bien évidemment, mais aussi la défense de l'État d'Israël en tant qu'État démocratique qui a le droit de se défendre. Et la qualification d'Israël état d'apartheid est parfaitement inadmissible. Et nous avons tous, mais encore une fois, l'institution que j'ai l'honneur de représenter, mais aussi chacun d'entre nous, ce devoir de lutter parce que finalement, la problématique n'est pas tant la qualification qui serait retenue à l'encontre de l'État d'Israël, mais c'est la menace qui pèse sur nos compatriotes français juifs et la transposition de ce conflit israélo-palestinien sur notre sol qui menace la sécurité des Français juifs. Et on le sait, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, un Marseillais, Ben Haddad, est mort au nom de la cause palestinienne. Aux Aratora, ce sont là encore des meurtres qui ont été commis au nom de Ozar HaTorah et au nom de la cause palestinienne et le danger il est là, le danger il est, je crois que LFI ces derniers temps prend plaisir à adopter une terminologie de systémique. Je fais cette terminologie mienne et je dis que il y a danger parce que ça menace la sécurité des Français juifs que de transposer systématiquement ce conflit et de faire la démonstration d'Israël état d'apartheid comme il souhaite absolument le faire, quoi qu'il en coûte.
Allez, on en termine avec les mouvements politiques et ensuite on fera une pause musicale. On se retrouvera avec vous, Fabienne Benavian, sur les mouvements politiques. Il nous reste les écologistes, dans les grands amis, et après les partis traditionnels. Aujourd'hui, il n'y a plus de partis socialistes, il reste le parti d'Emmanuel Macron. Et ensuite, le parti de droite classique, Éric Ciotti, LR. Donc, on va les écologistes, Emmanuel Macron et la droite républicaine.
Ils sont fréquentables.
Même les écologistes ?
Le problème des écologistes, c'est l'alliance qui a été faite avec la NUPES. Mais pour autant, de manière individuelle, je pense qu'il ne faut pas stigmatiser, en fait. Il y a certains projets qui ont été portés sur par la NUPES, mais donc du coup ça veut dire que nécessairement il y a un certain nombre d'écologistes qui se sont associés à ces projets qui sont pas de nature à rassurer la communauté juive. Mais je crois qu'il faut parfois aussi savoir individualiser, y compris en ce qui concerne les partis politiques.
Fabienne Benayan, je vous remercie. On se retrouve tout de suite après une première pause musicale qui a un rapport avec l'intimité, puisque vous l'avez été, vous ne vous en êtes jamais caché, vous l'êtes toujours, proche d'un tzaddik, le tzaddik de Marseille, le Rav Avraham Mimoun, Zecher Tzaddik Lebracha, et cette pause musicale a un rapport direct entre lui et vous. À tout à l'heure.
Merci.
اسمح بخ اسمح بخ العالم اسمح بخ قول نفسي اتجاولة عالم اسمح بخ العالم اسمح بخ قول نفسي اتجاولة عالم השכם והערם ולא יסיך בעדו את עירתו יחריב ואז נשיר לכבודו השירים במושלם אשמח בך, אשמח בך, אשמח בך, אשמח בך אל העולם אשמח בך גואל עיניים את גאולת העולם אשמח בך, אשמח בך, אשמח בך, אשמח בך אל העולם אשמח בך גואל נפשי
près de vous.
Radio Raviv à plus près de vous. On se retrouve avec Fabienne Bendayan, la présidente du CRIF Marseille-Provence, pour cette seconde et dernière partie d'émission. Alors Fabienne Bendayan, vous nous avez expliqué en première partie l'action du CRIF, vos rapports avec les différentes composantes politiques, les peut-être évolutions dans le dialogue avec certains partis peu fréquentables par le passé, aujourd'hui peut-être plus fréquentables. Néanmoins également votre implication dans la société française, la société nationale. Aujourd'hui nous sommes à Marseille, vous êtes peut-être la section du CRIF national la plus engagés dans le rapport intercommunauté, interculturel, puisqu'à Marseille, on ne peut pas vivre à Marseille si on ne vit pas ce melting pot avec les communautés chrétiennes, catholiques, protestantes et musulmanes, bien entendu, puisque la communauté musulmane, c'est une communauté très importante à Marseille. Quels sont les rapports que vous entretenez avec eux et y a-t-il un dialogue réel et sincère ?
Vous avez raison de souligner qu'à Marseille, il y a une spécificité qu'on n'a pas dans d'autres régions de France. C'est qu'on a cette chance de constater que finalement, la notion de vivre ensemble prend tout son sens ici à Marseille. Et je crois que c'est indispensable pour que nous puissions évoluer sereinement, apaiser et établir un dialogue qui soit un dialogue en faveur de la paix. Et s'agissant donc de l'institution, nous sommes acteurs de justement du développement de ce dialogue intercommunautaire, interreligieux, qui me paraît absolument indispensable et qui fait partie, je crois, des prérogatives de notre institution, mais qui en réalité, là aussi, c'est pareil, fait partie des prérogatives de chaque citoyen à titre individuel. Donc nous avons un certain nombre d'actions qui ont été menées par l'institution depuis toujours en faveur de ce dialogue interculturel, interreligieux. J'ai souvenance notamment de la première action qui avait été faite par la présidente Michèle Teboul, qui était l'action Foutez-nous la paix, qui en fait a été le début de l'action qui a suivi par mon prédécesseur. L'action Marseille Unie dans l'amitié, où l'idée, encore une fois, c'est de se dire que finalement, il faut trouver des éléments qui soient fédérateurs et qui rassemblent toutes les communautés. Et le sport, par exemple, est un vecteur, sans aucun doute, d'unité, de solidarité, quelles que soient les couleurs de peau. L'essentiel, c'est qu'on ait un maillot unique. Et cette action Marseille Unie dans l'amitié, elle a très bien fonctionné, puisque l'objectif, justement, c'était au départ de réunir sur un terrain de foot des gamins de tous horizons, de toutes religions, et de les mettre dans une même équipe avec un maillot Marseille Unie dans l'amitié. Et je crois que ce genre d'action qui est menée par notre institution participe grandement à ce dialogue.
Alors, avez-vous un rapport direct avec ce qu'on pourrait appeler un partenaire ? C'est-à-dire, demain, il y a un souci, vous appelez quelqu'un d'une communauté musulmane en particulier ?
Oui, non.
Comment ça se passe ? Ça veut dire, c'est pas secret.
C'est quoi le nom de votre émission déjà, en toute intimité ?
Voilà.
Non, il n'y a rien de secret, mais bien sûr, on a des rapports privilégiés, des contacts avec tous les responsables des autres communautés, nécessairement. L'idée, encore une fois, c'est d'essayer de dialoguer, de se rencontrer, et puis aussi de construire des choses ensemble. Par exemple, pour illustrer le propos, j'ai échangé récemment avec le recteur de la mosquée de la Caplette. On projette d'organiser un prochain événement, une prochaine conférence qui aura trait sur la lutte contre le racisme, les discriminations et l'antisémitisme. L'idée, encore une fois, c'est de dire, nous sommes tous des citoyens engagés et puis nous devons œuvrer en faveur de la paix sociale. Et donc, ça passe nécessairement par des événements où on se réunit, on se rassemble pour faire la démonstration de notre unité sur le plan intercommunautaire, interreligieux, et puis faire l'exemple aussi auprès des autres citoyens.
Alors, Fabienne Bendayan, vous nous avez dit en présentation de cette émission que vous étiez avocate.
Oui.
Presque, j'ai envie de dire, c'est une continuité naturelle avec cet engagement au CRIF. Vous avez mis l'accent sur les différentes actions de lutte contre l'antisémitisme. Ceci étant, vous avez des commissions de travail à vos côtés. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler ?
Oui, bien sûr. Donc, on a au sein
dans
de...
Le comité directeur.
Alors, le CRIF Marseille-Provence est articulé autour d'un comité directeur, de personnalités qui sont élues, des personnalités de droit. J'ai la chance d'être entourée par un comité directeur où finalement se compose à la fois l'expérience, la sagesse et le renouveau, puisqu'il y a un certain nombre de membres qui ont été élus qui font partie de la nouvelle génération. Ma préoccupation, c'est aussi de convoquer à l'engagement les jeunes générations et de faire en sorte que notre communauté, et notamment les plus jeunes, prennent conscience qu'on a besoin de gens qui s'engagent, qui se mobilisent, à tout point de vue d'ailleurs, hein, sur le plan communautaire, politique, associatif. Donc on a une conjugaison de ces personnes qui interviennent au sein du comité directeur. Et autour de ce comité directeur, on a des commissions, donc, comme vous l'avez rappelé, qui ont différentes vocations. Moi, je veux déjà saluer le travail qui, alors de toutes les commissions, bien évidemment, mais y en a certaines qui sont vraiment indispensables pour le bon fonctionnement de l'institution et les objectifs qu'on se fixe quand on a la tête de cette institution. C'est notamment la commission mémoire et éducation qui fait un travail absolument remarquable. On organise chaque année un voyage de la mémoire où on amène en fait des gamins, des collégiens, des lycéens. Cette année, le voyage a eu lieu à Berlin. Et je peux vous dire que, donc, il s'agit bien sûr de collèges, lycées, publics, de toute confession. Et je peux vous dire que, en fait, quand on évoquait la question de l'éducation qui était indispensable tout à l'heure, je peux vous dire que quand ces gamins reviennent de ce voyage et qu'ils ont été marqués dans leur chair, dans leur sang, dans leur esprit, parce qu'ils ont pu voir eux-mêmes en visitant les différents monuments et en faisant la visite eh bien, de tout ce qui a trait justement à la Shoah, c'est quelque chose qui marque et puis c'est quelque chose qui les marque mais qu'ils ont envie de partager aussi. On a la commission mémoire également qui organise chaque année, là, depuis la troisième année, le concours de la BD. Cette année, le thème qui avait été choisi, parce qu'on est sur les 80 ans des rafles du Vieux-Port et de l'Opéra, c'est les enfants dans les rafles. Et donc, on organise avec les établissements scolaires des concours de BD et une restitution qui a été faite avec Martine Vassal au département. Et là aussi, c'est pareil. Voilà, l'idée, encore une fois, c'est d'éduquer, transmettre, enseigner. Et c'est ce que fait très bien la commission mémoire.
Donc, la commission mémoire joue un rôle très important, on l'a vu. Vous avez consacré les premières années de votre militantisme au sein du CRIF dans la commission Loi et Justice. Aujourd'hui, cette commission, j'imagine, continue à fonctionner, voire de plus belle.
Oui, hélas, j'ai envie de dire. C'est la commission Droit et Justice, donc je vous l'ai indiqué tout à l'heure, elle a deux vocations. La première, c'est une assistance juridique auprès de nos associations fédérées. Et la deuxième chose, c'est évidemment, à chaque fois que nous sommes informés de faits susceptibles de caractériser une infraction pénale avec la circonstance aggravante d'antisémitisme, eh bien d'effectuer des signalements et de se constituer partie civile devant les juridictions répressives aux côtés des victimes. Et parfois il n'y en a pas parce que nous avons pris aussi la décision de nous constituer partie civile et de déposer plainte et d'effectuer des signalements aussi sur tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Donc, c'est important de souligner cette distinction, c'est que le dernier rapport sur l'antisémitisme fait état de 436 actes antisémitisme en France en 2022. Mais je veux dire, sans pour autant avoir le moindre côté alarmiste, qu'il faut avoir conscience que ce chiffre, finalement, ne reflète pas réellement la réalité de ce qui se passe en termes d'antisémitisme en France, puisque ça ne compte que les dépôts de plaintes sur les biens et sur les personnes. Donc il faut rappeler qu'il y a certaines personnes qui parfois sont assez frileuses à déposer plainte, ça c'est la première des choses. Et puis ça ne tient pas compte aussi de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux qui ne vise pas nécessairement une personne en particulier. Et donc là, de ce point de vue-là, bah, c'est pareil, nous avons décidé une tolérance zéro et d'effectuer chaque fois que nécessaire des signalements. Le dernier procès où le CRIF Marseille-Provence est constitué partie civile, c'est le procès qui visait Christophe Chalençon, donc ancienne figure des Gilets jaunes, où le CRIF Marseille-Provence est constitué partie civile pour appuyer eh bien, la nécessaire condamnation de Christophe Chalençon sur eh bien, les actes et les propos antisémites qui avaient été proférés par ce dernier. Mais il y a parfois des choses absolument extraordinaires qui se passent avec... avec les avocats qui m'entourent.
J'allais en venir, puisque vous avez quand même une équipe de professionnels.
Tout à fait,
À vos côtés, des professionnels bénévoles, engagés.
Absolument.
Et qui donnent donc de leur temps, de leurs compétences.
Absolument.
Parce que là,
je veux vraiment les remercier pour leur travail, parce que, alors, le président de la commission droit et justice, c'est maître Samuel Benamou. Il y a également maître Yoni Haddad du barreau de Toulon. Benjamin Ayoun également nous a rejoint. Il y a un certain nombre d'avocats donc qui sont vraiment mobilisés et qui font un travail remarquable, et je veux vraiment les remercier, parce que vous l'avez souligné à juste titre, c'est un investissement du temps, de l'engagement, une disponibilité et surtout des compétences, et ces compétences nous permettent d'obtenir parfois des résultats assez spectaculaires, comme dans le cas de cette affaire Chalençon, où la cour d'appel de Nîmes a réformé la décision qui avait été rendue par les premiers juges.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce procès Chalençon, puisque là on était en appel, mais néanmoins de quoi ça part, où ça arrive, à quoi a-t-il été condamné, pourquoi et où en est-on?
Alors,
et pourquoi cette implication du CRIF Marseille-Provence dans ce procès?
Alors, l'implication, pour faire bref, l'implication du CRIF Marseille-Provence, ça je l'ai décrite, c'est la tolérance zéro et la volonté effectivement, eh bien, que notre engagement ait du sens et qu'on puisse avoir de temps en temps aussi la démonstration qu'on ne peut pas dire et faire ici en France en toute impunité.
Alors, qu'a-t-il fait ce monsieur Chalençon?
Eh bien, ce monsieur, il a fait des choses qui ne sont pas très sympathiques vis-à-vis de la communauté juive, puisqu'il a proféré sur les réseaux sociaux des menaces. Il a eu des propos qui sont des propos antisémite, et donc il avait été condamné en première instance. Alors, il faut savoir que les propos antisémites, et tout à l'heure on évoquait la problématique de l'antisionisme, juste je fais une petite parenthèse pour que nos auditeurs comprennent la problématique juridique face à laquelle on est parfois confronté, c'est que l'antisémitisme aujourd'hui en France n'est pas un délit autonome, c'est une circonstance aggravante qui se rattache à un certain nombre d'infractions. Indépendamment de ce qui se passe dans le code pénal, on a aussi la définition de l'IHRA qui a été adoptée par l'Assemblée nationale et qui a été adoptée par le Sénat, qui évoque cette fois la question de l'antisionisme, qui définit l'antisionisme. Sauf que cette définition qui a été adoptée, c'est la définition de l'IHRA qui a été adoptée au Sénat et à l'Assemblée nationale, eh bien, ne figure pas aujourd'hui dans le code pénal. Et donc, en fait, on a reçu Mathieu Lefebvre, qui est député et président du groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée nationale. C'est un des sujets qu'on a évoqué avec lui, de se projeter sur une évolution législative qui permettrait du coup cette fois, puisque nous reconnaissons, en tout cas d'un point de vue de politique, il y a une reconnaissance de ce que l'antisionisme était assimilable à de l'antisémitisme. Et bien, l'idée, c'est de pousser le législateur.
Par le président de la République.
Absolument. Donc, l'idée, c'est de pousser le législateur à ce que, finalement, et bien, les actes qui sont de nature à caractériser l'antisionisme, puisque c'est la même chose, et bien, on ait les mêmes poursuites, les mêmes enjeux. Et s'agissant de Chalençon, pour en terminer rapidement, quand je vous disais qu'on obtient des choses remarquables, c'est qu'on a obtenu de la Cour d'appel, enfin, en tout cas, les avocats qui ont travaillé sur ce dossier ont obtenu de la Cour d'appel qu'il y ait une reconnaissance de ce qu'il y avait bien une contestation de crime contre l'humanité, ce qui est une première judiciaire. Donc, on gagne à être combatif, à ne rien lâcher. C'est qu'on obtient parfois le fruit d'un travail acharné et des résultats qui sont plus que satisfaisants.
Alors, on parlait du président de la République à l'instant. Le président Emmanuel Macron est venu à Marseille,
oui,
il y a une semaine. Vous avez été convié à assister à une inauguration, mais également c'est toujours le moment, j'imagine, pour faire passer peut-être un mot, un message. Vous l'aviez déjà rencontré il y a quelques mois. Pouvez-vous un petit peu nous expliquer? C'est un peu nouveau parce qu'en général, les présidents de la République ne viennent pas en province pour aller rencontrer le tout venant, voire ils viennent... De 3 heures, ils s'en vont, là, il vient 3 jours, il accorde une importance particulière à Marseille. Et il était venu également au Camp des Milles, ensemble.
Mmh.
Et là, on avait vu vraiment un vrai débat entre vous. Est-ce que le président du CRIF national a son rôle national? Vous, ça veut dire que vous avez plus de pouvoir au niveau régional? Comment ça se passe?
Alors, sur, déjà pour rebondir sur votre interrogation sur les prérogatives des uns et des autres, s'agissant du président de la République, celui qui échange avec lui régulièrement, c'est bien sûr le président du CRIF national, puisque c'est lui qui assume la représentativité de notre institution sur le plan national, donc c'est tout à fait normal que ce soit lui qui échange avec lui. Nous, on a cette chance incroyable d'avoir des rapports privilégiés avec les représentants politiques sur le plan régional, et donc du coup, nous sommes porteurs d'un message sur la région avec les représentants politiques régionaux, à savoir Renaud Muselier pour la région, Martine Vassal pour le département ou Benoît Payan pour la mairie. S'agissant de la venue du président de la République, j'ai eu la chance de pouvoir échanger quelques minutes avec lui, mais je ne vais pas vous vendre du rêve, ça n'a pas été un échange...
C'est peut-être pas forcément du rêve pour nos auditeurs.
Oui, enfin, en tout cas, j'ai eu l'occasion d'avoir un court échange avec lui, donc c'est à l'occasion de sa venue sur l'anniversaire des 10 ans du camp des 1000, où là, vraiment, la communauté juive était en particulier concernée. Là, il est venu durant 3 jours, donc j'ai été invitée par Renaud Muselier pour l'inauguration de la Grotte Casquer, donc le président Macron était présent et est intervenu, a fait un discours. Et l'Élysée a invité, je crois, à peu près 1000 personnalités de Marseille et de la région pour assister au discours d'Emmanuel Macron au MUCEM.
Alors, nous enregistrons cette émission, nous sommes le 4 juillet.
Oui.
Emmanuel Macron est venu il y a une semaine et entre-temps, on sait ce qui s'est passé dans la France, puisqu'il
Hélas.
Y a eu, on va limiter ça à une, pas limiter, on va nommer ça avec une bavure policière. La justice va faire son travail, mais c'est ce qu'on appelle...
Moi, j'appelle pas ça bavure, mais...
En tout cas, c'est ce que j'appelle, à savoir, on ne sait pas, donc il faut laisser la justice faire son travail.
Mais absolument.
Donc, il faut bien donner un nom. Il y a eu un jeune homme qui a été tué.
Oui.
Ça, c'est clair, c'est le résultat.
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Non, mais quand je dis que je n'appelle pas ça bavure, c'est que, en fait, pour l'instant... D'un point de vue factuel, il y a un jeune homme qui est décédé... que nous pouvons tous déplorer, bien évidemment.
Claire.
Et après, sur la qualification de ce qui s'est réellement passé, encore une fois, vous le savez, hein, en tant qu'avocat, on est particulièrement attaché à la présomption d'innocence et on est très attaché aussi à ce qu'on puisse avoir une enquête sereine, une justice qui puisse être rendue en fonction des éléments qui découleront de l'enquête. Donc, pour l'instant, moi, je suis extrêmement
réservé. Vous ne qualifiez pas encore la chose.
Absolument.
Bien que le procureur l'ait mis en examen pour homicide volontaire. Alors, il y a tout un tas de choses techniques et juridiques. Ceci étant dit, pour recadrer la chose, le président Macron est venu. Le lendemain soir, ça a éclaté, malheureusement. Et puis, depuis lors, le CRIF Marseille-Provence, on en a entendu beaucoup sur... la communauté juive serait menacée, pas menacée. Est-ce que vous avez des retombées de ces dégradations? Est-ce qu'il y a même un lien ou il n'y a pas du tout de lien? C'est un fantasme de plus que d'exagérer avec le lien avec la communauté juive.
Alors,
et la menace.
Ce que je peux vous dire de manière certaine, c'est que ce qui s'est passé en France ces derniers jours n'a évidemment aucun lien avec la communauté juive.
Mais à Marseille.
Ce sont des émeutes qui ont eu lieu, ce sont des saccages, ce sont des pillages, des rassemblements, mais tout ça est dénué de lien avec la communauté juive, c'est évident. C'est en lien avec le décès du jeune Naël ou pas d'ailleurs, en fonction des circonstances, on peut considérer que ce qui s'est passé, les pillages notamment, sont dépourvus de liens évidents avec la demande de justice qui, elle, est légitime concernant ce jeune qui a été tué. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est qu'il n'y a pas de lien avec la communauté juive. Maintenant, pour autant... on sait que quand la démocratie est en danger et on sait que quand les valeurs de la République sont en souffrance, en général, la communauté juive, malheureusement, n'est pas épargnée. Et malheureusement, ça a été le cas ces derniers jours. Je pense notamment au mémorial de la déportation qui a été visée.
Qui a été tagué.
Enfin, quand je dis visée, qui a été tagué avec des inscriptions « on va te faire une Shoah ». Je pense à un certain nombre de commerces cachers qui n'ont pas été épargnés au niveau des dégradations.
Mais c'est au même titre, on va dire, que malheureusement tous les autres commerces.
Il n'y a rien qui laisse présager que ce commerce a été visé particulièrement parce qu'il s'agisse d'un commerce juif. Pour autant, on a aussi entendu de manière anecdotique, mais en fait, ce n'est pas du tout anecdotique en réalité, c'est de manière, on va dire, en marge de ce qui s'est passé, des cris de mort aux Juifs à nouveau au cours de certaines manifestations, de certains rassemblements. Mais malheureusement, l'histoire témoigne que systématiquement, quand la société va mal, eh bien, la communauté juive n'est malheureusement pas épargnée. Hier, il y a eu un événement aussi qui pour l'instant doit faire l'objet d'une enquête et d'éclaircissement. Mais il y aurait deux enfants qui auraient été exposés à une menace d'attaque au couteau hier devant une école juive. Donc, pour l'instant...
Nous sommes le 4 juillet, hein, je le dis à nos auditeurs, puisque cette émission va repasser plusieurs fois dans la semaine de façon décalée. Donc là, nous sommes le 4 juillet 2020.
Oui, tout à fait. Donc là, si vous voulez, voilà, de manière isolée, il y a quand même des choses qui, malheureusement... concerne la communauté juive, il y a aussi des drapeaux nazis qui ont été sortis. Donc, de manière isolée, il y a des événements, mais quand bien même ces événements seraient isolés, il en demeure pas moins que il faut souligner que cela n'a absolument aucun lien avec les revendications qui justifient que toutes ces personnes soient dans la rue, que la communauté juive, encore une fois, est totalement étrangère à ce qui s'est passé concernant le jeune Nel, concernant les pillages, etc. Mais que malheureusement, l'histoire nous enseigne que systématiquement, et là je reprends le terme de systémique, on a malheureusement des actes à l'endroit de la communauté juive qui est visé à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe au sein de notre société qui témoigne que les valeurs républicaines sont en danger.
Fabien Bendayan, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vais, avant de refermer cette émission, vous poser une toute dernière question. Donc, en tant que présidente du CRIF, quels sont vos projets pour la poursuite de ce mandat, puisque vous êtes une jeune élue du CRIF? Ça fait un an que vous êtes présidente du CRIF,
un peu moins d'un an. Moins que ça.
Donc, quels sont vos projets pour l'année à venir?
Alors, les projets, c'est de poursuivre les actions prioritaires de notre institution. Il y a quelque chose qui me tient particulièrement à cœur également. C'est un souci d'unité communautaire. Au-delà de ce que nous menons au sein de notre institution, qu'on a un petit peu développé tout à l'heure, il va se passer plein de choses encore en prévision. Il y a évidemment des conférences, il y a des cycles de conférences qui vont être mis en place, il y a des voyages qui vont être organisés. La lutte contre l'État d'Israël, l'État d'apartheid, va faire l'objet aussi d'un voyage en Israël qu'on va organiser, d'une banque d'images. Il y a la jeunesse aussi qui est concernée par mes projets. J'ai créé au mois d'octobre deux commissions. On parlait des commissions tout à l'heure. Il y en a deux que j'ai créées qui me tiennent particulièrement à cœur. C'est la commission Femmes dans la Cité, parce que je veux que notre institution soit une institution ouverte et citoyenne. Et l'autre commission, c'est la commission jeunesse. Et j'évoquais avec vous il y a quelques instants la nécessité de convoquer notre jeunesse à l'engagement et de susciter des vocations. Donc c'est l'objectif et la vocation de cette commission. Mais avant toute chose, je crois que pour que nous puissions être efficaces, on a besoin d'être unis face à nos détracteurs et on a besoin d'une communauté qui soit unie et solidaire, et je me réjouis d'entretenir les meilleurs rapports avec les deux autres présidents des institutions communautaires qui sont Michel Cohen-Tenouji pour le Consistoire et Lionel Stora pour le FSJU, et j'ai proposé qu'on organise en fait une grande journée ou une après-midi, on n'a pas encore le format déterminé, mais l'idée c'est de faire les états généraux de la communauté, de faire participer les grandes institutions, mais aussi toutes les associations qui nous entourent, qui font un travail remarquable à tout point de vue, sur le plan du handicap, sur le plan social, sur le plan de la mémoire, et que sais-je encore, d'essayer de mettre un petit peu en avant toutes ces structures. Et en parallèle aussi, l'idée, c'est d'écouter notre communauté, d'être à l'écoute de notre communauté. Et cet événement aura vocation justement aussi à permettre à chacun de nos compatriotes à Marseille et dans la région de pouvoir s'exprimer et de voir comment, de manière unie, solidaire, nous pouvons faire avancer notre communauté.
Alors, vous avez le souhait d'être à l'écoute de votre communauté. Eh bien, là, c'est la communauté qui vous a écouté à travers Radio Aura Vive. Je vous remercie, Fabienne Ménaillant. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes présidente du CRIF Marseille-Provence, que vous étiez notre invité dans cette émission en toute intimité et que, pourquoi pas, nous nous retrouverons pour suivre votre actualité ici à ce micro.
Avec plaisir.
Puisque Radio Aura Vive est une web radio tourner vers le progrès, vers d'autres auditeurs, non pas limités toujours qu'à Marseille, puisque le web s'est ouvert à l'international.
Exact.
Merci beaucoup, Fabienne.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
En toute intimité, présenté par Thierry Bensamoun. En toute intimité. Aura Vive, plus près de vous.